un collectif, quel qu'il soit, est plus intelligent que les individus seuls. L'intelligence du collectif, elle est constante. Peu importe qui va faire partie du groupe, quoi.
La tentation du collectif, c'est ce qui réunit les habitants d'un nouveau type d'habitat, l'habitat participatif. Nouveau ? Pas tant que ça en fait, comme on va le voir dans ce reportage. Les premiers groupes d'habitat autogérés datent de la fin des années 70, dans la foulée du grand mouvement de résistance à la société de consommation qui parcourait la jeunesse occidentale de l'époque. Mouvement qui avait connu un coup d'arrêt dans les très individualistes années 90 et qui a repris avec vigueur depuis quelques années. Les habitants sont, comme les pionniers du mouvement, en quête de lien social, mais aussi de mixité sociale et générationnelle. Ils veulent aussi un habitat respectueux de l'environnement. Un peu partout en France, mais surtout dans les grandes agglomérations, on se regroupe pour imaginer sa maison idéale en adéquation avec son mode de vie rêvé.
C'est être en ville et avoir l'esprit de village. Mais de village où il n'y a pas de guerre de clochers quand même.
De village apaisé.
De village apaisé, exactement.
C'est vrai.
La coordination nationale des associations du secteur recense un peu plus de 500 projets d'habitat participatif, aboutis, quelques-uns depuis des décennies, ou en cours de réalisation, les plus nombreux. Collectivités et bailleurs sociaux s'approprient aussi le concept en proposant une part d'habitat participatif dans leur programme de construction. Mais souvent, les futurs habitants font tout eux-mêmes, du choix du terrain, de l'architecte et des matériaux, jusqu'à l'élaboration des règles de vie communes.
C'est vraiment une belle aventure.
Viens chez moi, j'habite avec mes voisins. C'est un reportage de Juliette Micheneau avec Loïc Frénéa à la prise de son.
France Inter, Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
On est sur les hauteurs de Clermont-Ferrand, au nord de la ville, dans l'éco-quartier de Trémontée. C'est un quartier qui est sorti de terre il y a 2-3 ans à peine. C'est encore tout en chantier au niveau du terrassement. Mais les bâtiments sont là, et notamment celui de la Somlada. C'est un grand bâtiment bardage bois. Il y a 7 familles qui vivent ici, 13 adultes, 12 enfants. Ça va de 4 à 70 ans. On est devant chez Christine. Christine, elle a mis un petit affichage devant sa porte. Si vous venez travailler ici, pourrez-vous respecter la propreté des lieux et vous déchausser ? Merci. Je crois que c'est le petit message pour les nombreux enfants de la Somlada qui viennent un peu squatter son salon, soit pour faire des jeux de société ou pour faire leurs devoirs. Bonjour Juliette.
Bonjour. Bonjour Loïc.
Entrez. Dites-nous où on est déjà.
Alors, vous êtes à la Somlada, ici. Voilà, donc il y a 3 appartements ici et 4 en bas. Et on va aller chez moi.
Vous voulez qu'on enlève les chaussures ?
Vous les frottez bien, et ouais. Ça devrait aller.
Il y a entrée.
Oui,
bonjour.
Je vais chercher Yannick, peut-être.
Ouais.
Hein, chercher Yannick. Entrée.
C'est bon, c'est bon. Alors, enchantée.
Bonjour, Michaela.
Bonjour.
Alors, je m'appelle Marion, je vis avec Stéphane et on a 2 enfants, Anouk qui a 7 ans et Emile qui a 10 ans.
Moi, c'est Brigitte. Je vis avec Yannick. On a 3 enfants, Nina, Lise et Erwan.
Anne-Laure, donc je vis avec Michel et nous avons 2 enfants de 6 et 4 ans, Lubin et Louison.
Donc Christine, moi je vis seule, je suis divorcée, je vais avoir 63 ans et j'ai 2 grands-enfants et 2 petites filles.
Christine, vous me dites que vous habitez seule, mais en fait là votre salon il est complètement squatté là.
Oui, momentanément.
Mais juste blague à part, comment on s'organise dans les services rendus entre voisins ? C'est où la limite pour dire on se rend service et des fois on abuse un peu quoi ? Comment
on dit non dans ces cas-là ?
Je pense qu'on est tous sensibles au fait de préserver l'intimité de l'autre. On est suffisamment nombreux pour trouver des solutions. J'en profite pour demander qui a de l'alcool à brûler dans cette maison. Ma fondue de ce soir.
Bonjour. Qui arrive ?
Moi, je suis Marion.
Et moi, je suis Anouk.
Tu peux nous dire 2 mots sur ta maison ?
Elle est bien. Il y a plein de gens et on se connaît un peu.
Mais c'est très pratique quand les enfants trouvent un peu le temps long à la maison. Ils n'hésitent pas à aller frapper à la porte des voisins pour tenter leur chance et voir s'il y a des jeux, des trucs sympas à faire avec les copains. Et c'est très agréable. Et alors, c'est quoi la motivation? Parce que vous auriez pu aussi avoir une maison avec des voisins à côté et des enfants qui jouent dans le jardin ensemble.
On s'est posé la question. D'ailleurs, on aurait été installés bien plus rapidement. Ça aurait pas mis 7 ans si on avait fait ce choix-là. Mais c'est vraiment la volonté de vivre des choses avec son entourage proche et de pas être dans l'individualité, l'individualisme qui reflète beaucoup notre société actuelle. Et puis, c'était pour que nos enfants aient un autre modèle de vie aussi. Voilà, leur proposer autre chose.
C'est beaucoup une histoire de valeur, j'entends pas parler d'argent. Est-ce qu'il y a un intérêt financier autour de tout ça ou pas du tout?
Au début, on a pu penser qu'il y en aurait un, mais au final, non.
On pensait que ça coûterait moins cher.
Ouais, voilà, tout à fait. On pensait qu'en mutualisant l'achat du terrain, la construction, ce serait. Effectivement, on aurait fait des sources d'économies, mais je pense pas. Au final, on est sur des prix qui sont plutôt classiques pour de l'achat sur le. On a des valeurs écologiques quand même, j'imagine que vous en avez un petit peu parlé. Et voilà, on voudrait...
Pas encore. Il y a un aspect écologique alors aussi
au projet. Oui, sur les choix, effectivement, des matériaux. C'était déterminant pour nous dans le choix de l'architecte aussi qui était spécialisé là-dedans. Et
puis il y a la question de l'empreinte foncière, c'est-à-dire que... Cette famille ensemble dans un bâtiment autour d'un patio avec un jardin, c'est pas cette famille dans des maisons côte à côte avec un bout de jardin qui les entoure. Donc optimiser l'espace et en même temps, sans se sentir à l'étroit. Enfin, moi j'ai vraiment l'impression qu'on a...
Avoir un logement de qualité.
Exactement.
Même,
Bon, est-ce qu'on peut aller visiter? Il y a un volontaire, je sais pas. Anne-Laure, je vous sentais bien motivée.
Sans problème, suivez-moi. Donc la visite commence par l'enfilage de sabots. C'est très important à la Samblada. Parce que chausser des chaussures en hiver, c'est très long et on a tout le temps besoin d'aller d'un endroit à l'autre.
Alors à quoi ça ressemble? C'est un bâtiment qui est vraiment particulier. Hein.
Alors il faut préciser déjà que le terrain est en pente. Donc ça fait une grosse contrainte architecturale.
Donc vous êtes à flanc de colline quoi.
Voilà, on est à flanc de colline. Là, juste au-dessus, on a le puits de Chanturgue. Et puis pour faire les choses bien, l'architecte a pensé à un bâtiment qui était juste en raie de rue et qui descendait dans le terrain. Et donc on rentre, on a un espace de plein pied autour d'un patio. Il y a 3 familles qui habitent en raie de rue et 4 autres familles qui accèdent chez elles en descendant dans le patio par un grand escalier métallique. Et en plus, on a donc dans le patio une grande salle commune, une buanderie, un atelier... Et puis le jardin tout autour. C'est à la fois beau et fonctionnel, je dirais.
Alors on va aller voir un peu
voilà.
Par où on passe du coup.
Donc là on emprunte la coursive. Hop, attention, parce qu'on est en cours d'aménagement les uns et les autres. Donc...
Bon, ça avance ce meuble à chaussures?
Eh ben oui, ça touche à sa fin. Je rentre dans la phase finale, la peinture, enfin l'azur.
Phase finale comme la maison, quoi.
Exactement. Un casier par habitant. Voilà. Bah oui.
Mais c'est un bricolage collectif.
Non,
c'est pour la maison.
Par habitant de chez moi. Mais j'ai déjà des commandes chez les voisins.
C'est vrai.
Oui, oui. Donc, je vais pouvoir vendre mon savoir-faire. Pantoufles, baskets, chaussures de ville.
Yannick,
je pense que ça se remplira bien, je pense. Yannick, habitant de la Samblada depuis presque 2 mois, avec ma femme et mes 3 enfants.
C'est quoi la Samblada? Pourquoi ça s'appelle comme ça?
La Samblada, c'est l'assemblée en vieux patois, et qui signifie à la fois la réunion de travail et la fête. La première étape, c'est la constitution du groupe. Donc là, c'est une bonne année de rencontres, de visites, pour se mettre d'accord sur le projet. Ensuite, nous, on a perdu un peu de temps sur la phase de conception avec l'architecte parce qu'il y a eu des problématiques de chiffrage. C'est assez classique, mais nous, on a mis bien 3 ans pour sortir de ça. Voilà. Et une fois que le projet est dessiné, chiffré, on va dire, il faut lancer les travaux. Et là, nous, on a mis à peu près 2 ans et demi, 3 ans. On a eu aussi un petit dérapage sur la durée des travaux. Donc voilà les 3 grandes séquences du projet. Ça met le groupe à l'épreuve et en même temps, ça crée des solidarités parce que quand on est passé à travers ça derrière, on sait comment chacun réagit un peu en phase de crise. On sait qu'il y a des gens qui sont plus à l'aise sur des problématiques techniques, d'autres sur des problématiques juridiques. Enfin voilà, donc
Maintenant, il n'y a plus qu'à vivre dans ces lieux et voir comment ça va se passer.
Ça pose d'autres questions sur le fonctionnement de tous les jours. On en rentre dans une logique un peu quotidienne, donc c'est assez rigolo parce que ces gens qui sont nos voisins et qu'on connaît finalement assez bien sur des réunions, sur des réflexions de fond, sur comment vivre ensemble, etc. Bah maintenant, voilà, faut le mettre en œuvre. Et voilà, bah je pense qu'il faut qu'on fasse comme les enfants, faut qu'on joue ensemble.
Michel, donc j'ai 40 ans bientôt et dans ce projet, moi j'ai participé beaucoup à l'aspect montage financier, etc. Et maintenant plus l'aspect travaux. Et donc voilà, je suis avec Anne-Laure et on a deux petits garçons.
Et alors là, qu'est-ce qu'on a de ce côté-là ?
Donc là, c'est la salle commune. Donc la salle commune qui est en cours de chantier.
Du coup, on est chez qui en fait ? Enfin, ça appartient à qui cet endroit ?
À tout le monde.
Donc ça, c'est le moyen de communiquer. Le tableau, on vient écrire parce qu'on n'a pas encore trouvé comment communiquer autrement que par Internet. Malheureusement, et les SMS. Donc on a pour l'instant trouvé ce tableau noir.
Plus une réunion mensuelle.
Voilà.
Alors, c'est vrai qu'à l'Assemblada, on fonctionne sur le principe du consensus. Hein. Il faut que la solution convienne à tout le monde. Il n'y a pas d'histoire de majorité. Il faut que ça convienne à tout le monde. Donc tant qu'on n'a pas trouvé la solution qui convenait à tout le monde, eh ben ça, oui, on peut donner l'impression de stagner. Pour autant, je ne pense pas que ce soit des moments inutiles.
Et donc, consensus, ça veut dire que, par exemple, la chambre d'amis, oui, s'il y a deux familles qui en ont besoin la même semaine...
Ouais. Il va falloir trouver une solution. J'ai des enfants qui lancent les machines, mais qui ne viennent pas récupérer le linge.
C'est déjà bien, moi.
Puis alors, c'est des bonnes machines,
ouais,
tu vois.
Ouais, c'est... ils cherchent bien le tambour. Ouais. Donc la buanderie, donc il y a 4 machines pour 7 familles.
Souvent on s'en sert pas, et donc même si on a des heures de pointe dans le trafic des machines à laver, ça fonctionne quand même plutôt bien.
Donc, je vais bien noter sur le petit papier. On note les tours de machines, en fait le nombre de machines qu'on fait pour pouvoir refacturer après. En fonction des quantités, parce que entre des familles de 5 et des personnes seules, c'est pas la même consommation d'eau et d'électricité.
Alors sur l'eau, comment ça marche ?
Chacun a son compteur d'eau chaude, d'eau froide, son compteur de chauffage, et donc à la fin, quoi, même régulièrement, on peut relever les compteurs. Et donc il y aura effectivement, chaque appartement a son compteur, et puis il y a un compteur général. Et ce compteur général, il sera réparti au tantième pour la partie commune et à la consommation réelle de la buanderie pour ce que chacun aura pointé sur le tableau qui est là.
Tu vois, les Guillaumont sont un peu plus propres que nous.
Ah ouais ?
Ah oui, non, nous, les enfants n'ont pas le droit de changer tous les jours de vêtements.
Oui.
Pour des raisons écologiques.
Ouais, et puis les Guillaumont, ils font du foot, du quoi.
Ah ouais, c'est vrai, ouais.
Ils doivent bien crader les
vêtements. Ouais, on n'a pas ça.
Ouais. Bon, on va vous laisser, merci beaucoup pour votre accueil. Bah,
merci
puis, bah,
à vous.
Bonne continuation.
Oui.
À bientôt.
C'est par là.
L'Assemblada, c'est donc l'histoire d'un projet mené de A à Z par un groupe d'habitants qui se sont choisis et qui ont tout élaboré en 7 ans. 7 ans, c'est aussi la durée de maturation des normaliennes. Parmi les initiateurs de cette autre expérience, certains ont jeté l'éponge au fil du temps, mais pas le bailleur social qui a piloté la reconstruction de ce quartier de Clermont-Ferrand. Un quartier dans lequel un immeuble de 13 logements regroupe des habitants qui ne se sont pas cooptés au début et qui sont en train de rentrer dans leurs murs. Et ça fonctionne aussi, certains y voient même un avantage, comme l'a découvert Juliette Micheneau dans son exploration de la planète Habitat Participatif.
Bonjour Vincent, c'est Juliette de France Inter. Écoutez, on est devant votre nouveau chez-vous, donc on vous attend. J'imagine que vous êtes en plein dans les cartons, peut-être déjà en route. Et bien, à tout de suite. On change de quartier, on est toujours au nord de Clermont-Ferrand. Ici, ça s'appelle les Normaliennes. Impossible de manquer les bâtiments, c'est du bardage tôle, vert fluo. Devant les terrasses, des plexiglas jaune fluo. Le bâtiment où on a rendez-vous est un petit peu plus sobre. Ici, c'est de l'habitat participatif porté par un bailleur social. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est le déménagement de Vincent et Camille. Bah, tiens, justement, voilà leur camion. Voilà, le camion arrive chargé, il y a le matelas, le sommier, la machine à laver, et même le vélo du petit Anton.
Alors, moi je suis Monique, je suis la maman de Vincent, donc c'est la personne qui déménage aujourd'hui.
Vous êtes venue prêter main forte.
Voilà, on est venu les aider. On passe donc le week-end ici.
Et ils vous ont expliqué un peu le principe du coup de ce logement?
Ah oui, oui, le logement participatif, là, oui. Par contre, oui, Anthony l'aide, bon, c'est bon. Oui, oui, moi je trouve que c'est très bien ce système. Et enfin, apparemment, je ne connais pas, là, mais le si peu de jeunes que j'ai vus, ils ont l'air très sympathiques, on voit qu'il y a une certaine solidarité.
Voilà, les chambres, le salon.
Et alors, qu'est-ce que ça fait d'être enfin chez soi?
Ben, ça fait plaisir, ouais. On va voir comment ça se passe, mais pour l'instant, voilà, c'est une concrétisation. Moi, nous, ça fait deux ans en fait qu'on est sur le projet, et ça fait un an qu'on a rencontré en fait les autres habitants, donc. C'est vrai que ça fait plaisir d'y être.
Ouais, déjà, là, du coup, c'est une première concrétisation de la communauté aussi, de se retrouver déménagement.
Effectivement, ouais, un petit peu, ouais. Après, on a, voilà, là, ce qu'on a pour l'instant, c'est ce qu'on avait fait, c'était plutôt on avait des réunions mensuelles, mais effectivement, c'était pas... Voilà, c'était plutôt... On mangeait un peu ensemble, on parlait... Enfin, voilà, on parle de comment on va s'organiser une fois dans le logement, parce que, du coup, là, la particularité de notre projet, c'est que on n'avait pas, justement... Tout le passif de comment construire le logement, comment démarcher un architecte, comment le financer. Et c'était le bailleur social qui a fait tout ça. Et après, nous, on n'a plus qu'à à se demander comment on va gérer après l'habitat, en fait, quoi. C'est pour ça que c'est un peu différent par rapport à un habitat participatif classique où il y a tout à faire, quoi.
Ça sent bon chez toi, dis donc.
Ouais. Ah ben, je suis en train de faire une petite quiche, justement, pour vous. D'ailleurs, il faut que je la surveille un petit peu. Je suis une future voisine, donc, de Camille et Vincent. Je m'appelle Catherine. Ben, moi, je suis là depuis un peu plus de 15 jours maintenant, 2 semaines. Donc, je suis un petit peu plus installée.
Ça sent bon, là.
Ça sent bon, c'est vrai?
Ouais, excellent.
Bon, ben, j'espère. Voilà, donc, c'est ma modeste contribution participative. Puisqu'on est dans un habitat participatif.
Alors, qu'est-ce que ça a de particulier, justement?
Eh bien, déjà, moi, avant d'être ici, je connaissais déjà donc mes futurs voisins, quand même. Ça, c'est important, parce qu'on noue des liens. La seule chose, c'est que, bon, j'ai quitté ma maison dans laquelle j'avais vécu plus de 20 ans. Mais le fait d'être bien entouré, je pense que ça aide à continuer son chemin. Moi, c'est une nouvelle tranche de vie pour moi. Je dirais que ça me permet de me projeter. Les derniers temps à mon travail, moi, j'avais plus vraiment de projet, en dehors de me dire, bon, bah, va y avoir la retraite, voilà. Et là, c'est vrai qu'est arrivé ce projet, enfin, inattendu, ça a été vraiment une accumulation de hasard, en fait.
Ça va être quoi, justement, votre vie en commun?
Eh bien, j'en sais rien. Moi, je suis quand même quelqu'un d'assez tranquille, normalement, qui est assez casanier, on va dire. Donc là, peut-être, ça va un peu déranger mon quotidien. Ça redémarre une autre façon de vivre. Avec Camille, justement, ma future voisine de palier, on est les référents jardin. Voilà. Moi, je me projette sans me projeter. Je me dis, on verra, au fur et à mesure, on verra. Et depuis que je fais comme ça, au lieu de me prendre la tête, bah, ça fait beaucoup mieux. Hein ? Il y a les enfants qui chantent. Enfin, Anton. Donc,
ça aussi, ça change le quotidien.
Ah bah oui, ça a changé mon quotidien. Oui, oui, parce que moi, les enfants en bas âge, il y a longtemps que j'ai un peu oublié. Après, bon, même après, on va vivre pas les uns chez les autres, ni sur les autres. Je veux dire que c'est normal, chacun chez soi quand même. On a un domaine privé quand même, malgré tout. Hein. Participatif veut pas dire... être ensemble tout le temps, hein, parce que ça deviendrait vite, comme on dit, l'enfer c'est les autres, je veux dire, ça deviendrait vite insupportable. Mais là, non, je me fais pas trop de soucis, je pense que c'est mieux que d'arriver dans quelque part où vous connaissez même pas vos voisins, que c'est tout juste bonjour, bonsoir, le côté... Alors, du coup, ça devient de la solitude. La solitude au milieu des autres, il n'y a pas pire, je trouve. Donc là, voilà, on sera un petit groupe, on ne sera pas nombreux, mais il n'y aura pas ce côté, justement, solitude au milieu des autres.
Interception, le magazine de reportage de France Inter.
Bah alors, moi, je m'appelle Samuel. Donc je suis un habitant de Lénormalienne.
Lénormalienne, ça n'a rien à voir avec un habitat participatif où les habitants sont à l'initiative de tout, vont tout construire, dessiner leurs plans, tout prendre en charge. Ici, ouais. Celui qui est moteur, c'est le bailleur social.
Moi, j'ai rejoint le projet en 2016. Je veux dire, les plans étaient déjà faits. Et pour moi, c'était une chance aussi de savoir que dans plus ou moins 2 ans, le projet allait arriver à terme. Parce que la question du temps que met un projet à aboutir, c'est assez crucial, parce que au bout de 3, 4, 5 ans, les gens s'usent, et du coup c'est pour ça qu'il y a beaucoup de roulements dans les projets. Mais là, ça donnait une certaine certitude que le projet allait arriver à terme. Donc c'est plutôt une qualité. Vu que moi je suis rentré en 2016, les plans étaient déjà faits, j'ai pas pu choisir moi-même qu'est-ce que je voulais pour mon appartement ou quoi. Je pense que c'est pas le point le plus important. L'habitat participatif, le but c'est de faire des choses ensemble. Et on a des espaces comme cette terrasse panoramique qui est juste super, parce qu'on va pouvoir passer des soirées à la Belle Étoile, à refaire le monde, je sais pas, on va pouvoir faire des barbecues. En bas, on va pouvoir faire des projections ciné.
Et le fait de pas s'être choisi, du coup, ils ont quel profil vos voisins ? C'est pas forcément des gens qui vous ressemblent.
En fait, on a une personne qui est au rez-de-chaussée, donc qui est handicapée. On a des personnes retraitées, on a des personnes actives, des personnes célibataires, des personnes seules. Et je pense que ça, c'est une chance. Parce qu'au final, ça fait 1 an qu'on se connaît. On fait des réunions depuis janvier 2018, tous les mois. Pendant ces réunions, il a fallu prendre des décisions, il a fallu faire des choix. Et ça s'est toujours super bien passé. On construit ensemble et on a envie que ça marche et on a envie de se faire plaisir et d'être heureux à vivre ça ensemble. Du coup, on n'a pas envie de se mettre des bâtons dans les roues. C'est rassurant et que moi, j'ai aucune peur là-dessus en tout cas.
Léni sera le dernier à emménager dans la résidence des Normaliennes. Son handicap, la taille de son fauteuil nécessite des aménagements dans l'appartement. En attendant, il est toujours chez ses parents, c'est là qu'on va le rencontrer.
Bonjour,
Julien. Céline, je suis son auxiliaire de vie.
D'accord.
Hop.
Bonjour.
Bonjour. Bon, je sais pas trop comment on va pouvoir se mettre, un peu le bazar.
Et oui, du coup, vous êtes en plein carton, c'est ça ?
Oui, j'en mets un peu partout.
Ouais, en effet, les cartons s'accumulent un peu dans la grande pièce, là.
Ouais, c'est ça. Donc, je m'appelle Léni, j'ai 27 ans et je suis futur heureux propriétaire d'un appartement dans la résidence Les Normaliennes.
Vous, ça fait très longtemps que vous pensez à ça et que vous travaillez sur ce projet.
Oui, je suis tombé dessus par hasard une fois. J'ai vu un fascicule d'une réunion autour de l'habitat participatif auquel j'étais à l'époque en recherche d'une solution pour prendre mon indépendance. Donc, c'était il y a maintenant bien 6 ans, je dirais. Et du coup, quand j'ai vu ça, ça m'a tout de suite plu parce qu'il y a des collectifs de gens qui s'organisent pour habiter un petit peu différemment de ce qui se fait. Déjà, ça m'intéresse de base. Et donc moi, vu ma situation en étant en fauteuil et en ayant besoin d'un logement très accessible, j'ai tout de suite vu que ça pouvait me permettre de faire un appartement à la mesure de ce dont j'avais besoin. C'est-à-dire, j'ai dessiné vraiment les plans de mon appartement et je pense pas qu'il y ait beaucoup de possibilités actuellement de faire ça, quoi. Il y a ça, donc il y a les voisins, le fait qu'on les connaisse et qu'on puisse organiser des choses. Et puis il y a aussi ce qu'avait annoncé l'office dès le début, c'est-à-dire de la mixité sociale. Après, voilà, je sais aussi que le collectif, c'est plus compliqué que l'absence de collectif. Donc il va falloir aussi qu'on apprenne à gérer les espaces communs sans que ça soit, il y ait trop de tension et qu'on arrive à s'exprimer. Et moi, j'aime bien l'idée de pouvoir faire des soirées dans cet immeuble, en sachant, après, voilà, je pense que j'ai déjà profité de mon chez-moi. Petit à petit coloniser le reste de l'immeuble. Après, moi, je suis très intéressé par la terrasse du 4e parce que je sais que c'est quelque chose... Au début, quand les plans se sont faits, j'étais un des plus fervents défenseurs du concept parce que je me dis clairement l'été, une terrasse plein sud, faire un petit barbecue, enfin bon, ça colle à peu près à ce que je me fais l'idée du bonheur, quoi.
Merci.
Merci.
Passez une bonne journée.
Merci.
Au revoir.
Veuillez patienter. Nous recherchons votre correspondant.
communication.
Mariotte, bonjour.
Oui, bonjour, je suis Juliette Michenot de France Inter, la radio. J'ai rendez-vous avec Hervé Angelot.
J'arrive, je viens vous chercher. Hein.
Merci.
Eh bien, Hervé Angelot, donc, directeur des politiques sociales à l'Office du Puy-de-Dôme.
C'est le premier habitat participatif dans une des réalisations de l'Office, ici, dans le Puy-de-Dôme, vous en tant que directeur des politiques sociales. Pourquoi vous y venez maintenant? Est-ce que vous en aviez entendu parler avant de ce principe d'habitat participatif? Qu'est-ce qui vous a amené à ça?
C'est vrai que dans le Puy-de-Dôme, on n'a pas une pression foncière comme on peut l'avoir dans d'autres métropoles, où effectivement, les gens viennent à l'habitat participatif parce qu'ils ne peuvent pas. En fait, acheter, acquérir. Donc, ils viennent chercher une forme d'économie. Et puis, effectivement, aussi de l'écologie, le fait de pouvoir aussi vivre autrement. Je crois savoir qu'il y a près de, allez, j'allais dire, 2 projets sur 3 dans lesquels on trouve un bailleur social, en fait, hein, qui est à l'initiative ou qui est impliqué comme opérateur dans le projet.
Parce que ça permet de sécuriser aussi ces projets-là, de les faire aboutir plus rapidement, peut-être ?
Complètement. C'est-à-dire qu'en fait, le bailleur social en fait va porter la construction. Il n'y aurait pas autant de projets qui pourraient émerger s'il n'y avait pas derrière des opérateurs qualifiés qui les accompagnent.
Tout dernier mot des Normaliens, vous êtes confiant pour l'avenir? Vous pensez que ça va bien se passer pour les habitants qui vont bien vivre ensemble?
C'est vrai qu'on regarde avec attention comment vont vivre ces parties communes, justement pour pouvoir reproduire peut-être certains espaces dans des projets, parce que là aussi il y a une vraie attente de pouvoir partager une terrasse, peut-être pouvoir partager une chambre d'amis, voilà. Donc c'est du logement plus du service en fait, hein, auquel on ne répondait pas nécessairement, mais qui devient une vraie demande, une vraie attente aujourd'hui.
Juliette Michenot de France Inter, j'ai rendez-vous avec monsieur le maire.
Oui, je vais le chercher, je vous fais patienter un instant.
Ouais, merci. On attend dans le hall de la mairie des Martres de Vers, une commune d'environ 4000 habitants, au sud de Clermont-Ferrand. On est en zone périurbaine. Il y a un très très gros projet immobilier d'environ 300 logements sur une zone de 9 hectares qui est en train de se construire. Et au milieu de tout ça, de l'habitat participatif.
Pascal Pigot, maire des Martres de Vers depuis maintenant 2008.
Les Martres de Vers, on est sur une commune, on va dire périurbaine, au sud de Clermont-Ferrand, on a à peu près 4000 habitants, et vous comptez en avoir beaucoup plus.
Donc effectivement, l'objectif, bah, c'est de grandir un petit peu, et là, d'un coup, on fait 300 logements, donc on peut espérer une croissance démographique importante. On avait imaginé ce projet de logement participatif. Alors ça a plusieurs avantages. Ça, l'avantage, c'est que les gens sont acteurs de leur logement. Donc il y a plein de thématiques qui sont prises en considération, notamment le développement durable, la citoyenneté. Parce que lorsqu'on construit quelque chose, qu'on pense quelque chose, qu'on est intervenant, eh ben on est très attentif à la façon dont c'est fait. Ça, c'est clair, c'est le bien vivre ensemble. On a tenu 4-5 réunions en Marthe là-dessus. Et alors, à chaque fois, on a vu des gens qui étaient vraiment sensibles à cette problématique. Il y a un petit groupe qui s'est créé. Bon, ça n'a peut-être pas été aussi fédérateur qu'on le pensait en termes de curiosité des gens, voilà.
Parce que c'est encore méconnu comme type d'habitat.
Ah, complètement. Ou... Et puis c'est spécial. Alors, il faut quand même que les gens se découvrent quand même des points communs, des affinités. Voilà, c'est ça. Là. Ceci dit, je pense que aujourd'hui, les gens aussi doivent être vraiment investis là-dedans pour pouvoir aller jusqu'au bout de ce projet. Et aujourd'hui, on constate au quotidien, les gens sont consommateurs. Pas forcément initiateur.
Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, pour l'instant, il n'y a pas de, alors, pas de preneur pour cet habitat participatif.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est à la recherche d'un groupe, oui. En juillet, il faudra qu'on prenne une décision.
Donc ça veut dire qu'une politique publique ne suffit pas pour arriver à créer tout ça.
La volonté publique ne suffit pas.
Normalement, ce qui était prévu pour le projet participatif, c'était là.
Sur une zone qui en tout, à quelle surface ?
8 hectares. Donc il y aura beaucoup de petits lots libres en haut.
Donc quand on dit lots libres, c'est des maisons individuelles
Vous achetez un terrain de 500 mètres carrés et puis vous faites votre maison.
Est-ce que ça, c'est plus attractif, par exemple?
Il y a une grosse, grosse demande. Le Domia, puisque c'est la filiale de Logidom, s'appelle Domia, qui commercialise. Ils ont des listes ils ont des listes d'attente. Quoi. Bah, le terrain, on va sortir, nous, à 130 euros du mètre carré, là.
parce que la puissance publique a mis quelque chose dedans. Aujourd'hui, sur le territoire de la commune, un terrain, on est à 180-200 euros le mètre carré, quoi.
En sachant que si on part sur l'habitat participatif, à partir du moment où on partage des pièces, normalement, on est censé s'en sortir plutôt bien aussi.
Je sais pas. Quand vous construisez en collectif, ça coûte toujours un peu plus cher que l'individuel. Pour des problèmes de fondation, etc. Mais c'est vrai, on a peut-être moins d'espace. C'est l'idée aussi, hein, c'est de rationaliser les espaces dont on a besoin. Donc, en termes d'empreinte écologique, développement durable, c'est important aussi. Le terrain, on continue à le laisser disponible pour un groupe qui va dans ce projet-là, ou alors on le commercialise à un promoteur.
Voilà. Et du coup, si même en mai ou juin, un groupe se constitue...
Ah, rien n'est perdu. Mais voilà, on s'est fixé une date, parce qu'il faut se fixer une date, hein, et gouverner, c'est agir. Hein, donc, voilà. Il faut agir, trancher, malheureusement.
Le concept d'habitat participatif, même favorisé par la puissance publique, ne rallie donc pas encore, loin s'en faut, tous les suffrages. Pourtant, depuis la loi Allure, portée en 2014 par Cécile Duflot, un cadre légal permet aux candidats à l'accès au logement de mieux s'organiser. Et parmi les artisans de cette loi, on trouve les pionniers de ces habitats groupés, dont certains ont vu le jour dès les années 70. Ces militants de la première heure ont pu faire profiter le législateur de leurs 40 ans d'expérience. On retrouve Juliette Micheneaux sur la route de ses tout premiers habitats participatifs.
Alors, nous sommes en route pour Villefontaine, c'est en Isère, mais en fait on est à une quarantaine de kilomètres après Lyon. On a rendez-vous pour visiter en fait un habitat participatif qui existe depuis les années 80. Donc c'est ça la Viorne, hein. C'est comme une immense maison, en fait elle ressemble aux autres maisons du lotissement, sauf que c'est comme si on avait accolé plein de maisons ensemble, type années 80, hein, le crépi, les tuiles, la petite pergola autour de certaines portes, et du coup plein de portes d'entrée qui correspondent j'imagine à chaque habitant. On va essayer de trouver la porte de Cécile Vialon, c'est avec elle qu'on a rendez-vous. Ah, bonjour.
Bonjour, donc Cécile Vialon.
Bonjour Juliette.
Bonjour, voilà. Rosalie, la fille des voisins.
Bonjour Rosalie.
Voilà.
C'est vraiment étonnant ce bâtiment. Hein. En fait, c'est comme si vous aviez pris plein de maisons de lotissement et vous les avez toutes imbriquées. C'est un peu ça.
On a dû s'adapter au terrain. Voilà, on voit mieux d'ici. Alors tout le monde le principe, c'est que tout le monde a un rez-de-chaussée et un étage, et tout le monde a un petit bout de terrain devant chez soi.
On a un grand couloir qui traverse le bâtiment et qui dessert les maisons.
Tout le monde a deux entrées. Quand vous rentrez là, vous rentrez dans les chambres, vous montez dans la salle à l'étage. Et quand vous rentrez là, vous descendez dans la salle.
Donc en fait, ici, on traverse un couloir et on passe chez tous les habitants, en fait.
Oui, oui. C'est assez sonore.
Trop pour ça.
Alain ? Alain, on peut monter ?
Oui.
Bonjour, bienvenue.
Merci, bonjour.
On vient de terminer le vin d'orange.
Oui, il est en cube. C'est vrai que ça embaume là, on sent vraiment
l'orange. On sent, hein.
Ah oui ?
Ouais, on sent.
Il faut appeler Emmanuel.
Alors Emmanuel, où est-ce qu'il est ?
Chez elle.
Je vais la chercher.
Nous, ça nous donne le tournis là, on rencontre tellement de gens.
Oui.
Et ce qui est amusant...
Je ne voulais pas être toute seule, moi.
Mais je vais vous dire, à chaque fois qu'on va voir quelqu'un dans un habitat groupé, en fait, on rencontre fatalement tous les voisins. Est-ce que vous savez vivre seul ?
Je ne sais pas, je n'ai jamais essayé.
Non.
Mais c'est une habitude quand même de partager, d'échanger, de s'appeler.
Quand nos enfants viennent avec nos petits-enfants, quand leurs enfants viennent avec leurs petits-enfants, comme ils ont passé 15 ans ensemble, ils se cherchent. Benjamin, il vient, il dit, il n'est pas là, Colin.
Oui, c'est vrai.
Alors, qu'est-ce que vous nous avez amené, là ?
Donc, c'est l'album photo du démarrage, des débuts. Voilà, il y avait 17 enfants à l'époque.
Pour combien de familles ?
13, voilà. Donc, voilà, après, on avait fait des concours de dessert, on a fait des carnavals, voilà. Donc, je m'appelle Cécile Vialon.
J'habite à Lavieune depuis 1985 et donc je suis parmi ceux qui ont initié le projet de l'habitat groupé. Faut dire les choses, on était dans l'esprit de mai 68. On connaissait les communautés, mais on pensait qu'il y avait trop justement de frottement et de, on voulait pas une vie communautaire aussi importante. On s'est dit, on a besoin de préserver notre vie de famille à deux avec nos enfants, tout en partageant aussi des choses en commun. On avait le souci, déjà d'avoir des bâtiments un peu, on disait, biodynamiques à l'époque.
On disait, vous êtes militante, vous avez milité notamment pour que ce statut de l'habitat groupé, de l'habitat participatif, comme on l'appelle aujourd'hui, soit aussi inscrit dans la loi.
Notre chance, c'est que Cécile Duflot connaissait les habitats groupés. Donc, les demandes qu'on avait pour que ça soit inscrit dans la loi, elle a dit, ok, je le mets dans ma loi Allure. Je pense que ça va marcher, mais le plus important pour moi, c'est que, comme c'était dans la loi, les notaires, les architectes, les urbanistes, les bailleurs sociaux, ils ont arrêté de nous dire « vous êtes des utopistes, vous êtes des farfelus, c'est pas possible ce que vous voulez ». Et ils ont arrêté de nous dire que c'était que pour les bobos. Parce que on leur a dit « mais regardez le locatif social, ça existe depuis 85, c'est pas nouveau ».
Anne Labie est maîtresse de conférences en sociologie à l'Université d'Orléans. Voilà une dizaine d'années qu'elle fait de la recherche sur l'habitat participatif. Est-ce qu'on sait en France à peu près combien il y a d'habitats qui relèvent justement de l'habitat participatif? On arrive à savoir ça?
Si on s'entend sur deux grands principes qui sont la participation des habitants lors de la phase de conception de montage et puis après dans la phase d'habiter, il y a aujourd'hui un peu plus de 150 habitats participatifs réalisés, plusieurs centaines de projets en phase de montage. Et il y a évidemment encore plus, et là on ne peut plus les compter, de groupes qui se sont trouvés et qui sont en train d'essayer de monter des choses, ou de collectivités territoriales, avec un maître d'ouvrage, un bailleur ou un promoteur, qui essaie de monter quelque chose sur un quartier qui relève de l'habitat participatif.
Et le regain d'intérêt, est-ce qu'il est lié aussi aux aspirations des habitants eux-mêmes? Les motivations, elles ont évolué depuis le début du mouvement?
Les deux grandes motivations, à mon avis, c'est la dimension environnementale, écologique. Et puis l'autre dimension, la dimension sociale, c'est la question du vieillissement. Les plus jeunes vont pouvoir effectivement soutenir les plus âgés, qui vont pouvoir aussi soutenir les plus jeunes. Et on a maintenant effectivement des projets plutôt seniors qui se disent finalement, entre générations, on n'a peut-être pas tout à fait les mêmes besoins, les mêmes rythmes de vie, les mêmes aspirations. Et il est peut-être préférable finalement d'être entre personnes vieillissantes pour être vraiment dans un accompagnement du vieillissement. On souhaite vieillir chez soi, mais être chez soi, quand ça signifie être seul, dans une maison ou un grand appartement qu'on n'arrive plus forcément à entretenir, parfois dans une zone périurbaine où les transports ne sont pas du tout pratiques, ça peut être mal vivre. Et donc effectivement, l'habitat participatif, c'est se dire... je vais pouvoir avoir un environnement bienveillant, de voisinage bienveillant, je vais pouvoir partager des espaces communs, avoir des activités avec mes voisins. Après, la question du grand vieillissement, de la dépendance, comment tout ça peut se résoudre dans un habitat participatif, que font les voisins, qu'est-ce qu'ils ne font pas, jusqu'où ils vont dans l'entraide. On est en train effectivement de s'approprier ces questions et de voir comment on va pouvoir véritablement anticiper ces sujets-là.
Est-ce que là-dessus, les pouvoirs publics accompagnent, s'intéressent à ce genre de choses?
En termes d'anticipation, de prospective, oui, ça les intéresse. La CARSAT propose des prêts à taux zéro pour les personnes retraitées qui entrent dans un habitat participatif. Sauf que, évidemment, la dimension, enfin, l'idée que les retraités, que les personnes âgées elles-mêmes participent à la conception de leur habitat, des solutions qui les concernent, évidemment, pour certaines institutions du champ de la vieillesse, c'est encore difficile à admettre. Mais ça bouge aussi.
Interception sur France Inter.
Prendre complètement à gauche sur chemin des Gannes.
On est à Châteauguay, une commune au nord de Clermont-Ferrand. On a rendez-vous chez Anthony et sa famille. En fait, ils sont trois foyers à s'être rencontrés. Ils ont ensemble un projet d'habitat participatif. On en est au tout début pour eux.
Du coup, c'est nous qui provoquons ce rendez-vous. Vous vous voyez souvent ?
Oh, on se voit trop souvent.
On se voit souvent, mais non, on n'en avait pas prévu là.
Mais c'est très bien.
Bon, alors c'est vous, Mamie Martine ?
C'est moi, Mamie Martine.
J'ai vu votre petit nom dans la vidéo de présentation du projet. Quoi vous vous inscrivez, vous, dans ce projet ?
Eh bien, moi, je m'inscris dans ce projet parce que ça m'a été proposé par mes enfants lorsqu'ils sont revenus en Auvergne. Bon, déjà, niveau écologie, bon, j'ai, dans ma vie, été assez militante. Et dans ma vie aussi, j'ai vu ce que pouvait donner la vie en collectivité, puisque j'avais ma grand-mère, j'avais ma tante, mes cousins qui vivaient avec moi jusqu'à mes 15 ans. Bon, j'espère que le discours que j'en ai eu a incité un petit peu Elsa à aimer cette possibilité. Et j'ai été ravie quand elle m'a proposé éventuellement d'embarquer avec eux.
Donc projet participatif, c'est la suite logique de tout ça ?
C'est la suite logique, oui, d'un mode de vie. Ça sera plus sympathique que d'aller voir les grand-mères dans l'EHPAD.
Pas envie d'être tranquille un peu chez soi, toute seule.
Ben, si j'avais voulu être tranquille, j'aurais pas fait venir mes enfants, déjà.
Moi, Anthony, j'ai 34 ans. On a toujours vécu en coloc, en fait. Avant, dans nos vies respectives aussi, on a toujours vécu avec des gens. Donc on se voit vraiment pas vivre dans un schéma papa, maman, enfant et juste une maison individuelle, ça ne correspond pas, en fait. Ça fait un petit moment qu'on a l'idée quand même, donc ça stagne un petit peu. On a eu pas mal de roulements en fait, on a rencontré pas mal de gens et puis ça a pas pris. Donc là on est trois foyers, pas trop mal, mais...
Et emmener belle-maman avec vous, c'était une évidence ?
Bah ouais, j'ai la chance d'avoir une belle-maman très très cool, donc bon, franchement, quand j'en parle à d'autres gens, des fois ils me font « non, là c'est pas possible, tu te moques de moi ». Elle nous aide beaucoup, c'est vrai qu'on partage beaucoup avec Martine.
Donc Elsa, 33 ans, auvergnate. L'habitat participatif, c'est une idée que j'ai eue quand j'avais 15 ans. Et en fait, il s'est avéré que j'ai toujours vécu avec des amis ou des colocs qui sont réellement devenus quasiment des frangins aujourd'hui.
Où ça ressemblerait à quoi votre habitat idéal ?
Pour moi, l'habitat idéal, c'est un terrain sans clôture, sans haie, où on maximise le partage et on maximise l'échange, en fait, de se croiser le plus possible, en tout cas de vivre un voisinage un peu amélioré, quoi.
Alors moi c'est Gabrielle, donc je suis maman d'une petite fille qui n'est pas présente, qui a 4 ans, avec le papa qui s'appelle Nicolas, donc on est 3. Cette idée de projet, moi elle germe dans ma tête depuis très longtemps, un peu moins de mon compagnon, on va dire, je lui ai mis dans la tête. Après, moi, je suis un peu comme Elsa, je vois pas la vie autrement, en fait. C'est que pour moi, c'est dans l'impossible, en fait. Je me dis déjà, financièrement, pas possible, humainement, pas possible. Au niveau de motivation, je dis souvent à Nico, quoi, on va acheter une maison, faire un prêt sur 30 ans, et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pour moi, on peut pas vivre sans les autres, en fait. C'est que l'individualisme, d'accord, mais on va où? Et prendre conscience de ça, et accepter qu'on est dépendant, on n'est pas indépendant, en fait, et que... L'accepter, c'est le vivre, en fait. Et après, bon, bah, faut mettre en place plein de choses, des modes de communication, enfin, beaucoup de choses pour que ça fonctionne. Mais j'ai du mal à comprendre quelqu'un qui dit non, je veux vivre tout seul. Ça me donne pas envie, en tout cas.
Et la première fois, on s'est rendu compte qu'on partageait quelque chose de vraiment fort avec Gab, c'est qu'on voulait pas être les seuls. On n'avait pas envie d'être l'unique modèle féminin de nos enfants. Je pense que c'est important, en tant que maman, de se dire. Qu'on n'est pas parfait et que les autres mamans le sont pas non plus et qu'on peut être toutes complémentaires aussi avec d'autres papas avec et de c'est nos enfants et c'est sûr que c'est quand t'as un enfant c'est le tien et avant tout mais de pouvoir lui faire partager d'autres modèles d'autres types de caractères d'autres types de fonctionnement je pense que ça peut être une richesse
interchanger entre mamans c'est hyper intéressant quoi de pouvoir d'avoir à disposition quelqu'un qui est échangé, quoi, dire ah, j'ai un problème, comment tu fais. En fait, ça fait un peu comme ça fait un travail éducatif beaucoup plus enrichissant que la famille, en fait, que le concours familial. Là, ça permet d'avoir un regard extérieur sur tout, hein, pas que sur l'éducation, d'ailleurs, sur plein de choses. Hein, mais
Du coup, comment expliquer que ça passe par le logement? Parce que c'est vrai qu'on pourrait se rencontrer au sein d'associations, à la sortie de l'école, entre copains. Pourquoi le logement, c'est fondamental dans tout ça?
Nous, on le projette dans le logement parce qu'on vit aussi des vies à 100 à l'heure comme tout le monde. Et que je pense qu'on projette dans notre habitat un espace-temps un peu différent. Et donc, de ramener ça à l'intérieur de chez soi, je pense que c'est plus simple que d'aller le chercher à l'extérieur, avoir de la logistique.
Notre coloc, on le voit beaucoup plus souvent que les copains qu'on habite, qui habitent même à 5 km. Donc, il y a aussi un côté pratique qui est indéniable. Merci.
Projet éducatif, protection de l'environnement, économie, les motifs de regroupement ne manquent donc pas. Et quelques expériences ont fait la démonstration de leur durabilité. Viens chez moi, j'habite avec mes voisins. C'était un reportage de Juliette Micheneau, prise de son Loïc Frenéa, tous les deux de France Bleu, Pays d'Auvergne. Réalisation Stéphane Combe, mixage Mathias Alléon. À la semaine prochaine.